France Culture.
Bonjour Marie-Richeux.
Bonjour Maurice, ça va et vous?
Ouais, très bien. Oh, c'est bien.
Ça fait plaisir de se voir.
Oui, tout à fait.
C'est ça, hein.
Parce que j'ai bon souvenir d'une émission qui date de quelques années et j'étais... c'était un peu une première et tout ça et je m'étais dit, oh là là, pourvu que ce soit le genre de proposition qui propose des matchs retour, façon de parler.
Et donc là, ça fait comme un petit match retour.
Oui, mais match amical, voilà. C'est, il n'y a pas d'adversaire, avec des gagnants quoi, dans le match.
Est-ce que vous avez un ordre en tête des textes?
Ah, non.
Ok, très bien. On verra ce qui vient du coup?
Bah oui, parce que je me suis dit que peut-être que vous aviez une petite idée. Vous les avez les textes d'ailleurs?
Je les ai.
Moi j'ai les livres. Hein.
Ouais, j'ai les textes, carrément.
Bon bah c'est bien.
C'est quoi?
Dans ma logique, lesquels sont venus en premier? Le premier c'était Artaud, comme une évidence quoi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les textes qui étaient au pied du lit. Hein. Parce que c'était tellement compliqué comme question.
France Culture.
En fait, on va pas en discuter, on va le faire comme ça. Tu vas nous suivre, Vivien?
Le book club.
Sur l'ordre des textes, ça va être plus joli. Il est TDI, ouais.
Oh, c'est bien.
Grande femme.
La résistance, elle chauffe.
Dans la bibliothèque de Virus.
Ah, Elodie Zell. Mais oui, bien sûr, j'étais reparti, j'étais hyper mal à l'aise la première fois, je me rappelle bien. Et on m'en a beaucoup parlé. Hein.
Moi aussi, mais moi j'étais très touchée. J'étais
ah, vous, vous étiez à l'aise, hein? J'ai l'impression que c'est votre métier.
Bah depuis 15 ans, même.
C'est incroyable.
Coup.
Marie-Richeux.
Il paraît que pour vous faire une idée d'un livre, vous en lisez la première et la dernière phrase. Par exemple, ce recueil de poèmes de Jehan Rictus, Les Soliloques du Pauvre, sorti en 1897, que vous avez adapté en le mettant en musique, commence par Merde et finit par Le goût d'un téton dans les dents. En effet, ça peut donner envie d'y aller voir de plus près. Et c'est ce que font vos textes depuis une quinzaine d'années, Virus. Allez y voir de plus près. Les mots y sont choisis avec une rigueur qui jamais n'exclut l'humour et même s'il est sombre, souvent, on y voit plus clair. Sur la lutte des classes, sur la violence domestique, sur la violence de certains mots, sur l'obstination qu'il faut pour mener un projet musical et parfois l'obstination qu'il faut pour vivre tout court. On a l'impression que votre rap creuse le langage toujours plus profond et sans reculer devant l'obscurité. Sur la pochette de votre dernier disque, une silhouette d'enfant se détache, toute noire, sur fond de plage ensoleillée. Il y a quelque temps, les éditions du Feu Sacré vous demandaient quel livre suscitait en vous des envie d'auto-daffé et vous répondiez ce qui complique l'écriture pour exclure, ce qu'on nous a imposé, tout ce qui endorme, tout ce qui ne gêne en rien, tout ce qui crée des débats creux, qui ne poussent à ouvrir ni esprit ni dictionnaire, tout ce qui rend encore plus bête, tout ce qui coûte trop cher. Voilà une belle définition par la négative, mais aujourd'hui on va vous écouter parler des livres qui vous donnent envie de les partager. Merci beaucoup Virus d'ouvrir votre bibliothèque pour le Book Club de France Culture.
Merci à vous.
Votre dernier disque s'appelle Nique tes mères.
Oui.
Et j'ai appris grâce à vous qu'il s'agissait, entre autres choses, d'un espace-temps comprenant un jour et une nuit, soit 24 heures, correspondant à un cycle biologique.
Oui.
Et je me suis dit, ça c'est quand même toujours le cadeau que nous fait Virus, de nous apprendre des nouveaux mots. Est-ce que vous sauriez dire à quand remonte cette curiosité-là?
Waouh. Ben, j'aurais presque tendance à dire depuis toujours... discrètement, et puis c'est plutôt de rendre public ces choses-là qui peut se dater. Mais au final, j'ai mémoire, depuis que la mémoire existe dans ma mémoire, d'avoir toujours été interpellé par les mots. Et d'ailleurs, quand j'étais beaucoup plus jeune, enfant tout ça, je parlais peu et j'étais un peu celui qui a le mot pour rire, quoi. Du coup, j'ai vite compris que un mot pouvait tout à fait ou plomber ou ensoleiller une pièce, un visage, etc. Donc, je pense que j'en ai emmagasiné, mais que j'osais pas ou peu me sentir assez légitime pour les utiliser. La nique tes mères, c'est carrément un terme scientifique, biologique, moi, dès que je l'ai rencontré, ça a été, comment dire, une arborescence, c'est-à-dire que tout de suite, on entend autre chose, et hop, ce autre chose fait référence à un groupe, pilier fondateur de la culture hip-hop, NTM. Souvent, ça pouffe de rire. Ah, oh, Virus, nique tes mères. Enfin, on croit que c'est une blague. Alors qu'en fait, ce terme est très... scientifique et tout. Et il fallait le peser, ouais, avant de l'utiliser. Mais je savais de toute façon depuis très longtemps que si un jour je faisais un album, il allait s'appeler comme ça.
Ah
parce
oui.
que, ouais, depuis très très longtemps. Et il y a un jour dans un atelier, une participante qui m'avait dit « Oui, tu connais ce mot, nique tes mères et tout ». J'ai dit « Oui, oui, mais si un jour, ça remonte, mais si un jour j'arrive à faire un album, eh ben, il s'appellera comme ça. Parce que si j'arrive à faire un album, ça veut dire que je suis sur un cheminement lumineux. » Et du coup, le nique tes mères, pour moi, le jour, nuit, signifiait ça. Mm. Et d'où cette espèce de chose jusqu'ici qui avait été perçue comme sombre parce qu'elle l'était, en fait, tout simplement.
Elle l'était, mais d'ailleurs, cette pochette garde un peu de sombre, et moi, je pense que c'est un sombre qu'il n'est pas inutile d'aller visiter, c'est juste que peut-être vous avez un peu plus de lumière en bagage pour qu'on aille avec vous de manière un peu moins difficile.
Mais est-ce que c'est du sombre ou est-ce que c'est du vide? Ça, je sais pas, parce que, justement, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un... oser affronter ce vide. Mm. Mais c'est d'ailleurs, même quand on travaille les concerts, ou même les vidéos, Junior, avec qui on réalise, par exemple, les vidéos, m'avait vachement repris sur le terme de couleur et lumière. Ce que je lui avais dit, il y avait un très très long débat sur le tout premier clip, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas publié quelque chose. Et du coup, souvent, ben... il y avait cette espèce de chose comme si c'était génétiquement irréversible, que moi le sombre, que le noir...
C'était votre esthétique, ouais.
Ouais, voilà, et qu'elle était... Alors que moi, je savais très bien ce que je faisais, déjà. Si j'ai posé quelques jalons comme ça, un petit peu noirs, c'est pour, entre guillemets, démontrer par A plus Z que c'est du noir que jaillissent toutes les autres couleurs, selon moi.
Il y a un morceau qui commence avec votre voix qui dit « Beaucoup de secrets sont enfouis dans la mathématique des lettres ».
Voilà.
Ensuite, on vous entend jongler, couple, copule, hymne, hymen, rue plus gueux, ça fait rugueux, con plus verge, ça converge.
Ouais, ouais.
Il y a quelque chose où on sent, où c'est dans un autre morceau aussi, où au lieu de dire « s'approvisionner »,
s'appauvrisionner.
C'est s'appauvrisionner. Oh, et je me dis, dire s'appauvrisionner pour décrire quelqu'un qui va acheter, par exemple, de la drogue ou autre chose.
Et qui va s'appauvrir sur le moment.
Il va s'appauvrir sur le moment,
bah forcément.
En s'approvisionnant.
Ouais, ouais, ouais. Ah, ça. Bah, ça m'amuse, moi. Moi, je considère avoir comme des sortes de boules de loto qui tournent à peu près en permanence. Et quand les chiffres s'alignent, en fait, ça donne un mot. Mm. Ou une phrase, s'appauvrisionner. Parfois, ça vient d'une erreur, d'une langue qui fourche. C'est pour ça que parfois, parler avec des personnes, entre guillemets, considérées comme ne sachant ni lire ni écrire, oh là là, c'est des artistes, quoi. Mais des artistes du quotidien. Des fois, j'analyse les langues, un petit peu de chacun, en se détachant de vert, c'est bon, rouge, c'est faux. Mm. Et du coup, mais c'est surtout un rapport ludique, quoi. Moi, c'est ça, surtout. C'est malgré moi, à la base, et je pense que là, plus ça va, et plus j'accepte que...
Ça peut être rigolo.
C'est pas évident d'associer le jeu, vous voyez, par exemple, le parc de jeux pour enfants, à la science. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que je me situe quelque part...
Entre les deux.
Voilà, ouais, ouais.
Est-ce qu'il y avait des livres où vous avez grandi?
Eh ben, en fait, pas tant que ça. Moi, j'ai souvenir d'une encyclopédie qui s'appelait Tout l'univers. À mon avis...
Que vous aimiez?
J'aimais bien feuilleter, parce qu'il y avait plein d'images et tout. C'était rouge, gros. Et à mon avis, c'était un commerçant qui était venu frapper. Et ça ressemblait à ça. Et il y avait un dictionnaire.
Que vous aimiez?
Ouais, ouais. Et il y avait aussi des petites images dans ce dictionnaire, mais surtout c'est le dictionnaire, parfois je vais dans certains logis et je le retrouve. Je crois que c'était peut-être le Robert ou bien, et c'est celui de cette époque-là. Ouais, j'aimais bien farfouiller un petit peu dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à chacun de se construire son propre dictionnaire. Parce que appauvrisionner, franchement, sur le coup, j'étais content de ma... C'est presque une boutade.
Bah, c'est une boutade.
Oui, voilà. Moi, par exemple, je sais pas, je suis un gamin, tu me dis, il y a un gars avec des cheveux un peu bouclés comme ça, qui a écrit un livre, il a pas mis la lettre E. Déjà, ça interpelle sur chaque phrase qu'on peut écrire, etc. Et là, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il avait écrit un livre... Georges Perec, du coup, qui s'appelle Les Revenantes. Et où il écrit Revenantes avec que des E. Et je sais pas, moi, je trouve que...
Vous voulez dire qu'on vous a pas assez transmis le plaisir de la lecture par le jeu, par l'étonnement?
Voilà, on a dissocié.
Le plaisir, le côté ludique.
Selon moi. C'est-à-dire
pour vous, dans votre histoire.
Oui. Ouais. Oui, et puis j'ose espérer que ça progresse. Parce que du coup, j'y suis plus, moi, en primaire. Mais il y a ça. Il y a cette idée que même l'image un peu tu fais tes devoirs et tu joueras après. Ah, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé jouer. Non, mais c'est vrai. Si on pouvait faire nos devoirs en jouant. Mais ça, voilà. Après, peut-être ça a hyper progressé. Mais du coup, je me rattrape peut-être inconsciemment comme ça.
Quand est-ce que vous avez découvert, Virus, qu'il y avait possiblement de la joie, du plaisir, même que ça pouvait répondre à votre petit appétit mathématique ou grand appétit mathématique, la lecture?
C'est marrant parce que c'est beaucoup par des livres que je n'ai pas lus. Parce que, par exemple, La disparition de Georges Perec, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai, hein.
Mais ça existe dans votre tête.
Ouais.
Bon, c'est déjà
ça
pas
autorise,
mal.
Ça ouais. autorise. Mais, par exemple, par la musique, quand Renaud avait dit « Nous nous en allerons », ça m'interpellait.
Ça me fait penser à un de vos titres qui dit « Je te raconterai ».
Oui. Ben oui, parce que un jour, on m'a posé la question « Mais pourquoi, psychologiquement, tu l'as laissé comme... ?» Mais je dis « Ben en fait, c'est... ma langue, elle avait fourché. Et puis pourquoi on n'aurait pas le droit ?» Enfin, je veux dire, une fois qu'on est sorti du...
cadre scolaire.
Ouais, peut-être du barème, en tout cas. Mm. Parce que le cadre scolaire, je suis désolé, mais il y a aussi... C'est pas pour jeter une pierre à l'école, parce qu'en plus, j'y suis plus. Mais toujours est-il que... Le plus triste à mes yeux ou à mes oreilles, c'est d'observer un cheminement scolaire dans ce qui pourrait être au départ du loisir et qui peut devenir même une passion ou un métier ou une vocation ou je ne sais quoi. En tout cas, autour de l'écriture.
En tout cas, il y a quelque chose qui a fortement résisté chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois, vous décrivez, et ça existe dans ce disque-là, dans Nick Temer, il y a des souvenirs d'école qui sont des souvenirs plutôt durs, qui ne sont pas des bons souvenirs.
Non, pas amusants.
Vous décrivez ça. Et en même temps, vous décrivez aussi quelque chose qui continue de battre très fort de votre rapport à la langue, qui résiste à tout ça.
Parce que là, vous avez dit, vous avez hésité entre décriver et découvrir.
Absolument.
Et bien, il y a un mot là, quelque part. C'est comme Marie Richeux peut devenir Maricheux.
Ouais.
Voilà, le mot valise.
C'est arrivé souvent.
Bien sûr. Non, mais par contre, le mot valise, moi, ça m'est aussi arrivé de reprendre. Parce qu'il y a une règle mathématique. Il faut que le dernier wagon soit parfaitement...
Comme les dominos.
Exactement. Et donc, celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux. Mais vous voyez, dans cette petite fourche-là, entre décrire et découvrir, mais ça peut aussi tomber à côté, découvrir... Non, ça ne marche pas. Découvrir, pourquoi pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est le cheminement mental, il est souvent de cet ordre-là, ouais. Et le « je te raconterai », pourquoi pas? Quand vous me posez la question, est-ce qu'il y avait des livres
chez vous,
chez nous, voilà. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire... Parce que j'ai pas envie de... Comment dire? Non pas de juger, mais de condamner l'idée que, par exemple, s'il n'y en a pas, ça suggère un manquement. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une chance. Mais aujourd'hui, Vous voyez, la balle de flipper, à un moment, j'aurais aimé qu'elle aille ailleurs. Par exemple, quand je voulais faire un bac L, sortie de collège. Voilà, ça, c'est un truc qui n'a pas été assimilé chez moi. Bac L, c'est oula. Tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça va dans un champ complètement inconnu. Bon, bref.
Mais du coup, vous n'avez pas pu faire ça?
Ben non, mais je me le fais là, en fait. Je me rediplôme moi-même. Je me refais mon...
C'est pas belle, la vie?
Bah oui. Faut être patient, quoi. Mais aujourd'hui, elle est très dispersée, cette lecture, parce que c'est mon là, aujourd'hui, mon attention, elle est... J'aimerais prendre l'exemple, par exemple, du cinéma. En ce moment, je regarde un sitcom. C'est des petits épisodes de 20 minutes, tranquille. C'est-à-dire que le nombre de livres que j'ai ouverts, comme ça, j'ai lu la première phrase, et boum, une page fermée. Et après, en fait, c'est... Ça gambade.
Eh bien, peut-être que c'est ça qui vous va, vous.
Moi, j'aime bien.
Bon, on y vient, à cette sélection, juste après cette chanson.
Heureusement qu'il y a un montage.
Bon, franchement, c'est pas sûr. Hein.
Ah !
On va voir. Moi, j'aime bien, vous savez, quand il n'y a pas trop de montage.
Moi non plus, j'aime pas.
Mais pourtant, on a vraiment monté dans votre chanson. Vraiment.
C'est bien.
Avec Résus.
Mais il faut.
pointé du doigt depuis à peu près le CE1. Tiens, fais le 17, colle 911, qui voit un peu de quel sens. Chauffe chez eux, ils composent le 22. Tel vin avec telle viande, l'amour c'est un peu comme la drogue. Si t'en veux, il vaut mieux que t'en revendes. Quand on est cantonné dans ce rôle, qu'est-ce qu'on fait? Bah on s'imite, contrôle ton crawl, contrôle ton crawl. On vole, on baise ou tu pique-niques à l'abri du soleil, un saule ton préféré. Des arbres utiles, on a toujours trouvé ça drôle de vous souhaiter, bande d'abrutis, de vous voir tout sourire, brin de persil, dire merci à des déçus, des drogueries, des bacheliers qui ont eu 9,5. Je pense donc je suis donc je pue donc tu fuis donc je suis. Celle-ci c'est pour moi, y'a pas de quoi, je vous en prie. Sonne pour mon stage de troisième, l'a fallu qu'on me pistonne. J'ai de suite compris le principe des principes qui se déboutonnent. T'étais debout, t'es débouté, merde, y'a plus de rhum pour les prud'hommes. DRH chargés de com sont ceux à qui ont jeté des bouts de gomme parce qu'ils la prêtaient pas à celle qu'on qualifiera de calligraphe sans cahier. À qui je prêterais ma cote de maille quand est-ce les caillera. Si on déborde du quadrillage, marche au milieu de la cahier, c'est que l'empaillé du mois touche bien trois fois le prix de son loyer. Mi-travailleur, mitraillé, je rêvais d'une vie en claquette quand je les ai. Je rêve d'une vie pieds nus, quand je suis pieds nus, j'ai froid aux pieds. Bref, palper des faux papiers, déployer des plaidoyers. Le proprio cherche un profil de fonctionnaire bien payé. J'étais parti pour turbiner, mais imagine si tu te méfiais. Un lendemain de biturbo, le visage bituméfié. Pris en otage par tous ces chemins qu'on a photo empruntés. Je sais pas si c'est du sabotage, mais en tout cas c'est saboté. Reste plus qu'à inventer un alphabet, des rues mal alpha mal famées. T'as cru qu'il y avait qu'à se baisser, ne jamais réclamer. Je t'avais dit qu'on est marrant, craché sur le schéma de plein de parents. Un schéma pré-mâché dont on dépend quand il faut un garant.
Celui-là aussi, par exemple, il m'a beaucoup touché.
D'accord.
Rentrer dans les rangs, rentrer dans l'errance.
Ah oui, oui, bah oui, mais ça rejoint un peu ce qu'on se disait juste avant.
On arrive au moment, Virus, où on vous a demandé de choisir 5 livres, comme à chacun de nos invités, dans ce déballage de bibliothèque pour le Book Club. Vous l'avez fait ?
Oui.
Et on s'était dit qu'on allait décider de l'ordre des textes un petit peu comme ça. Est-ce que ça vous va de sortir un premier texte de votre sélection ?
Ben pourquoi pas, j'en ai un sous le nez.
Et ben alors voilà, très bien. Et ce sous le nez, c'est tout simplement Antoine Artaud.
Oui.
Le théâtre et son double. Vous voulez nous dire quelques mots avant de le lire ?
Ben en fait, pour vous répondre. D'ailleurs, j'avais envoyé 4 extraits. J'ai essayé de voir si ça allait passer. En fait, votre collègue n'a pas lâché l'affaire.
C'est vraiment pas son genre de lâcher l'affaire.
Ouais, j'ai vu, j'ai dit bon, ok. Et puis en fait, parce que c'est voilà, comment se saisir aussi de ce partage-là.
Ouais.
Vous croyez franchement qu'on me demande souvent ça ?
Non, mais c'est une invitation qui est difficile, mais elle est belle quand même.
Ah, c'est magnifique. Franchement, je vous remercie 5 fois. Par exemple, celui-là, celui d'Antonin Artaud.
Donc le théâtre et son double.
Oui, c'est un texte que je partage en live. Enfin, c'est un extrait sur un spectacle qui s'appelle 66, avec un point à la fin. Et je me suis dit, mais tout simplement, cherche pas midi à 14h. Pied du lit, il était là. Et,
texte de 1938, on vous écoute.
On juge un civilisé à la façon dont il se comporte et il pense comme il se comporte. Mais déjà sur le mot de civilisé, il y a confusion. Pour tout le monde, un civilisé cultivé est un homme renseigné sur des systèmes et qui pense en système, en forme, en signe, en représentation. C'est un monstre. Chez qui s'est développée jusqu'à l'absurde cette faculté que nous avons de tirer des pensées de nos actes au lieu d'identifier nos actes à nos pensées. Si notre vie manque de soufre, c'est-à-dire d'une constante magie, c'est qu'il nous plaît de regarder nos actes et de nous perdre en considération sur les formes rêvées de nos actes au lieu d'être poussés par eux. Et cette faculté est humaine exclusivement. Je dirais même que c'est une infection de l'humain qui nous gâte des idées qui auraient dû demeurer divines. car loin de croire le surnaturel, le divin inventé par l'homme, je pense que c'est l'intervention millénaire de l'homme qui a fini par nous corrompre le divin.
Ça vous fait lever les bras au ciel.
Mais c'est incroyable. C'est pour moi, ce texte ne peut être que réalisé sous l'impulsion, l'injonction du divin. On peut pas aborder ça sous cet angle, avec cette profondeur, avec cette vérité ou cette réalité, sans être frappé par le divin. Même si c'est peut-être momentané, qu'après, je sais pas, le divin en permanence. Je l'espère, dans le sens où avant d'être à la hauteur du divin qui peut nous concerner, je pense qu'on nous envoie des fragments. Et voilà, donc ça, c'est un texte qui, avec d'une part le postulat qui est celui-ci, je suis d'accord, c'est vrai, c'est-à-dire que là, ce qui est dit, je suis totalement d'accord. Et en même temps, là, ce que je vous dis, mais on peut pas, ben là, je le découvre. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi aussi, un texte, c'est chaque lecture, c'est un nouveau texte, quoi. Et là, c'est ce qui vient de se passer.
Qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, à cette nouvelle lecture?
Que là, j'ai commencé la lecture en levant le doigt, alors que j'ai jamais levé le doigt quand je le lis. Hein.
Et c'est quoi le début, la première phrase? Vous avez levé le doigt en disant « On juge un civilisé à la façon dont il se comporte et il pense comme il se comporte ».
Ouais.
C'est... À la fin, vous avez levé les bras au ciel.
Oui, parce que... Mais non, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, moi, je suis pas... Vous voyez, quand je parlais un petit peu de l'écrin du théâtre pour, par exemple, ce texte-là, au centre d'autres textes qui sont les miens, entremêlés avec ceux d'autres auteurs, dans le fil de la discussion, parce que pour moi, c'est une discussion, finalement, le spectacle, forcément, arriver avec une esthétique parfois râpée, dans le débit, dans peut-être la gestuelle ou l'attitude, c'est ce qui fait aussi qu'on choisit. Enfin, moi, pour moi, on choisit pas son courant. C'est le courant qui nous choisit. On me dit, pourquoi t'as fait du rap? Ben, j'ai pas fait plouf plouf entre le rap et le reggae. Non, mais c'est vrai. Et du coup.
Meilleure réponse.
Non, mais c'est vrai, il y a ça. C'est le socle. C'est le mien, en tout cas.
C'est le rap.
Oui, de base. Mais je serais pas là sans ce socle-là. Et du coup, ce socle-là correspond à un environnement, une géographie, une époque, etc. Et puis, c'est le point de départ, culturellement. C'est-à-dire que c'est de là que tout est parti. Et du coup, c'est assez fou, parce qu'aujourd'hui, je vois du rap partout. Pour moi, ça, c'en est, en fait.
Bon, du reste, on peut dire quand même qu'Antonin Artaud, et ce qu'il faisait avec sa voix, et comment il projetait les mots, n'est pas très très éloigné des plus grands MC du rap.
Dans la percussion, dans peut-être la transgression. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, en fait, du coup, le rap aujourd'hui, il est quasi omniprésent, soit par une espèce de génétique, même si elle est totalement d'une autre époque, ou alors une percussion souvent. Mais plus... Je pense que le plus important, c'est surtout l'autorisation.
C'est quoi votre deuxième choix, Virus?
Le deuxième... Ah, dans l'ordre?
Dans celui que vous voulez. On s'est dit qu'on allait...
Ah, alors le deuxième...
Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on lit?
Franchement, le deuxième, je suis allé pareil, automatiquement, mais toujours par le prisme du travail. Parce que je travaille sur ces textes-là, en fait. Thierry, alors on dit Metz ou Metz?
Thierry Metz, on entend sa voix? On entend sa voix en 1990, dans une archive, une émission qui s'appelait La Voix du Silence. L'année où il a publié le journal d'un manœuvre.
Les oiseaux, ce sont aussi les hommes qu'on ne regarde pas voler, quoi, qui sont très proches de nous, qui nous entourent avec leurs gestes. Ils ont un petit peu des gestes d'oiseaux. C'est comme ça que je les percevais.
En fait, les hommes sont comme des oiseaux, mais on les perçoit plutôt comme des pierres, quand on est dans le travail.
Comme des pierres, et on les alourdit dans le cas où eux essaieraient de s'alléger un peu. Et surtout, bien sûr, dans ce cadre de travail manuel pénible.
Comparer le manœuvre au rouge-gorge, c'est pour le moins étonnant, non?
Non, parce que c'est l'oiseau qui vient nous surprendre en plein travail, qui a un petit œil moqueur, qui nous voit par transparence, en quelque sorte, et qui nous montre ce qu'il y a autour de nous. L'arc-en-ciel, c'est déjà lui le départ, le point de départ de l'arc-en-ciel.
Et le manœuvre, il a un petit œil moqueur?
Quelquefois, oui, devant certaines situations. Bah, cette façon qu'on a de lui parler, de lui parler durement, de ne pas le voir, d'ignorer ce qu'il fait finalement intérieurement. On essaye de gêner son élévation. On lui met toujours un outil très lourd dans la main, mais des fois je pense que ça le fait sourire.
Et vous avez l'impression que le manœuvre, il est toujours prêt à s'élever ?
Oui, il habite la verticalité du chantier. Il démarre des fondations, des fouilles. Et puis progressivement, avec les outils, avec un assemblage de choses, il s'élève avec les autres. Tout en restant toujours un degré dessous, puisqu'il fait passer les choses. C'est un passeur, il travaille comme ça. Il ravitaille. Les hommes qui, eux, s'élèvent d'un cran toujours en plus. Qui le négligent d'ailleurs à cause de ça.
Vous décrivez le lieu où vous travaillez comme un lieu où les mots sont absents. Par exemple, le chef est laconique, il dit « tu connais le travail, tu le fais ». Et c'est tout. Il y a une économie de mots terrible, et vous protestez contre cette économie de mots.
Mais justement, c'est à partir de cette raréfaction, à la fois de cette absence, presque pendulaire, quoi. Oui, c'est ça. Ça bat dans le chantier, ça passe d'un homme à l'autre, quoi. Et faut aller vite, faut attraper au vol, quoi. À travers ces bribes de phrases, de conversations, essayer de trouver le mot qui va approfondir cette densité d'écriture.
La voix de Thierry Metz, ouvrier manœuvre, mais aussi écrivain et poète, qui a publié Le journal d'un manœuvre en 1990 aux éditions Gallimard. Ça fait partie des textes que vous avez choisi de partager avec nous. Virus, avant d'en lire un extrait, vous voulez nous dire pourquoi ?
Ben, j'allais presque dire parce que je travaille dessus, ce qui est vrai, parce que parce que j'ai peut-être cette sensibilité et on me propose de la développer. Enfin, de l'explorer.
De sensibilité à quoi ?
Aux écritures, entre guillemets, j'allais dire travailleuses, moi, mais c'est plutôt prolétariennes. Elles ont été un petit peu rangées dans ces littératures prolétariennes. J'allais dire des paroles, pas volées, mais en tout cas, très peu prédestinées, en fait, à écrire. Et ça m'a toujours interpellé, parce que... Dans le volume, je sais pas la proportion que ça représente, mais en tout cas, je me suis toujours senti vachement concerné. J'ai l'impression...
Par ces livres-là.
Ouais. Bah, d'ailleurs, même Rictus dans sa langue. En fait, tout ce qui pourrait être un peu déviant ou je sais pas. Là, c'est différent parce que c'est le journal d'un manœuvre. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des chantiers. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est incroyable. J'aurais aimé être son collègue, en fait. C'est presque, je me dis, mais est-ce que tu aurais préféré travailler avec lui ou écrire ? Parce que je sais pas, c'est...
Mais qu'est-ce qui vous plaît ? Ce qui vous plaît, c'est qu'il parvienne à mettre des mots sur une expérience de travail que vous connaissez ?
Non.
Qu'il parvienne à retranscrire un monde que vous connaissez ? Qu'il parvienne à retranscrire une langue que vous avez eue dans les oreilles ?
Non, même pas. C'est même
quoi,
pas aussi égoïste que ça. C'est juste que je mets... Il y a une espèce de transfert où je me dis waouh. Bah déjà, je pense qu'il y a un transfert, une identification. Ça veut dire que par exemple, ou que ce soit le chantier ou bien l'usine ou en tout cas des métiers qui absorbent parfois la réflexion. Lui, j'ai l'impression que dans le journal déjà, il fait tout pour rester immergé, coûte que coûte. Ça veut dire il
quitte pas sa pensée.
C'est surtout qu'en fait il fait jaillir des arcs-en-ciel à des endroits où on s'y attend pas. Des oiseaux, des arcs-en-ciel. Là, il arrive à amener quelque chose de la poésie qui pouvait être très répulsif au départ. C'est-à-dire que la poésie très florale ou riviérale entre guillemets, c'est
rossignolale.
Voilà, c'est un petit peu celle qui a ricoché sur moi. Historiquement, j'allais dire. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, parce que c'est le retour des oiseaux, c'est le retour des arcs-en-ciel, non mais c'est fou.
Vous lisez un extrait ?
Ouais. On passe d'une chose à l'autre. Très vite, pas moyen de s'arrêter une seconde pour désigner le nuage. Et plus loin, les violences. Personne ici ne pourrait parler du feu. Tout reste entre nous, jamais dit. On n'est convié à rien puisqu'on n'a pas de mots, que des outils, c'est tout. Écris ton poème maintenant.
Dans ce poème, Thierry Metz, il dit « On est convié à rien puisqu'on n'a pas de mots ». Et dans l'archive qu'on a entendue de 1990, il parle de la rareté des mots. Il dit que précisément, c'est à partir de cette rareté des mots qu'il a travaillé, qu'il a écrit.
Ben, moi, dès qu'il a dit la raréfaction, j'ai pensé à la torréfaction. Mm-hmm. Tout de suite.
Et donc ?
Eh ben, cette façon de malaxer, c'est-à-dire la raréfaction... Bon, après, c'est peut-être parce que je viens de boire un café, j'en sais rien. Mais
vous avez transformé quelque chose où il y aurait du moi en quelque chose qui fabriquerait.
Ouais. Et surtout qui donnerait la pêche, quoi. Enfin, en tout cas.
Du café.
Ouais. Mais même la torréfaction. Parce que, au final, quand il dit écris ton poème maintenant, pour moi, il dit je me suis occupé de la raréfaction, occupe-toi de la torréfaction. Selon moi. Il invite, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire ces écritures qui ont accepté que ça resterait inachevé et qui invitent, en fait.
Impression de promenade. Impression de plomb de promenade.
Quand je passe triste et noir, y a de quoi rire. Faut voir rentrer les boutiquiers, les yeux durs, la gueule en tirelire, dans leur comptoir comme des banquiers. J'ai l'air luxe et irrésistible. Ils se cavalent, ils ont peur de moi, peur que je leur chope leur comestible. Peur pour leur femme, pour je ne sais quoi. Leur conscience dit, tu te soignes les tripes, tu te les bourras t'en étouffer. Ben non, v'là un capable bouffé. Alors dame, ils me prennent en grippe. Alors dame, ils me prennent en grippe. Y'a pas, mon spectre les embarrasse. Ça leur donne comme d'air mort. Des fois je plaque ma fiole à leur glace et ils deviennent livides comme des morts. Du coup malgré leur chair de poule, ils se jettent sur la porte en hurlant. Faut voir comme ils ameutent la foule pendant que Bibi fout le camp. Avez-vous vu ce misérable, cet individu équivoque, ce pouilleux, ce voleur en loque qui nous regarde écrouté à table? Ma parole, on n'est plus chez soi, on peut plus digérer tranquille, on paye l'impôt, y'a des lois, qu'est-ce qu'ils font les sergents de ville? Je suis loin que je les entends encore, le vent d'hiver m'apporte leur cri aigre, ils piaillent comme à Noël des porcs, comme des chiens gras sur un chien maigre. Pendant ce temps moi je file en silence, car j'aime pas la publicité. Oh je connais leur état de santé, ils me feraient foutre en clou par prudence. Comme ça au moins j'ai le bénéfice de me répéter en liberté, de mollus sur les édifices. Égalité, fraternité, égalité, fraternité, égalité. Souvent j'ai pas d'autre nourriture, c'est le pain de l'esprit, disent les gourmets. Bah l'homme est un muse par nature, et la nature changera jamais. Car y'a des prophètes, des penseurs qu'on cherchait à changer l'homme. Quoi qu'ils ont fait en somme, de ce qu'il ose faire qui nomme son cœur. Rien de rien, même en tapant dessus, ou en le prenant par la tendresse. Comme l'a fait l'autre Seigneur Jésus, qui s'est vraiment trompé d'adresse. Aussi quand on a lu l'histoire, ceux qu'on voulu améliorer le genre humain, on les traite de quoi, on voudrait bien les exécrer. On réfléchit, on a envie de beugler tout seul, miséréré. Puis on se dit ben quoi c'est la vie, y'a rien à faire, y'a qu'à pleurer. On réfléchit, puis on se dit ben quoi c'est la vie, y'a rien à faire, y'a qu'à pleurer.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Virus, Marie Richeux.
On va vers votre troisième choix. Ce sera lequel ?
Le fruit d'un arbre. Enfin.
Kouamtawa, on a aussi sa voix.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Allez, c'est
on l'écoute.
Ah, j'adore.
C'est un poème, et cette fois, c'est une archive de la Radio Nova. Il était à leur micro en 2018.
J'étais élève dans une école de Bafoussam, d'un quartier qui s'appelle Bamenzi 2, le quartier où je suis né. J'étais élève au CE2. Et j'avais un camarade de classe, paix à son âme, qui s'appelait Jacques. Et la mère de Jacques vendait les beignets haricots bouillis. Nous appelions cela BHB, Et il se trouve que un jour, la mère de Jarre nous dit, vous savez, tous les soirs, je n'arrive pas à vendre mes beignets. Donc le matin, en allant à l'école, si vous voulez bien, vous passez ici à la maison. S'il en reste, vous en prenez pour manger sur le chemin de l'école. Alors, un jour, comme tous les matins, je pars avec deux autres amis, Casimir, Baudelaire, nous montons chez les Jacques. Et il se trouve que quand nous arrivions chez la mère de Jacques, elle emballait le restant de beignets avec des papiers journaux ou du papier de ciment. Et le grand frère de Jacques était bouquiniste sur la place du marché de Bafoussam. Nous arrivons donc ce matin et la mère de Jacques n'a pas de papier de journal pour emballer les beignets. Elle s'en va au salon, elle arrache les pages d'un livre et emballe les beignets que nous avons mangés sur le chemin de l'école. Comme j'étais un petit garçon curieux, après avoir mangé ces beignets, je regarde et il y avait un texte, prière au masque. J'arrive à l'école, je vais voir M. Rigobert, mon instituteur. Je lui donne le texte parce que j'avais lu et ne l'avais pas compris. Et je lui demande sa signification. Il était occupé, il me dit de revenir plus tard. Le lendemain, j'insiste et M. Rigobert me dit, mon cher Kwam, ce texte est un poème. Et tu ne peux vraiment le comprendre que si tu es poète toi-même. Donc je suis devenu poète en quelque sorte pour comprendre le poème « Prière au masque » de Léopold Sédar Senghor.
Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je suis ici? Ce que je fais ici, vous ne dites rien? Rien, même pas vous, ni vous. Pourquoi êtes-vous là si ce n'est pour me dire pourquoi je suis ici? Comment seriez-vous si vous vous retrouviez quelque part comme ici, sans savoir comment ni pourquoi, et que personne ne daigne répondre à vos pourquoi et comment? J'en connais qui, à cette heure, serait en train de pleurer, de hurler, de tempêter, en maudissant le ciel, en vomissant la terre et en s'arrachant les cheveux. N'allez pas croire que moi, qui le dis aussi naturellement, n'ai rien fait de tout ça. Quand on a pleuré, hurlé, tempêté, pour que change une situation, et que malgré nos pleurs, nos hurlements et nos tempêtements, rien n'a changé dans cette situation, on se ressaisit, on s'assagit et on comprend qu'il vaut mieux se servir du peu de force qu'il nous reste pour supporter la malchance qui a pris place sur notre route.
Vous venez de lire un extrait d'un texte qui s'appelle « Fruit d'un arbre » de Kwam Tawa, paru en 2023 aux éditions 34, et juste avant, on entendait sa voix, trop beau, raconter comment il était presque entré en poésie et en littérature en essayant de déchiffrer un poème de Sédar Senghor qui entourait des beignets. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là, Virus?
Parce qu'on s'est rencontrés. Et franchement, parce qu'on va être amené à se revoir très bientôt pour je sais pas quoi encore faire autour de ce texte-là, qui en fait n'est qu'un prétexte, selon moi, pour ce qu'on a vécu en se rencontrant. C'est rare, franchement. Assez rare.
Et c'est lié aux mots, cette rencontre?
Ben en fait, oui. Et d'autant que, mais plus que ça, parce que les mots ont été prétextes. On s'est rencontrés sur une résidence à la Cité internationale de la langue française, qui est à
Villers-Cotterêts.
Voilà. Et puis, on aurait pu, comme ça arrive parfois, dans la maison des artistes, manger en décalage. Chacun est là pour écrire son petit machin, et puis voilà. Et puis, il n'y a pas de souci, en fait, on est là.
Bien sûr, on peut avoir envie de rester concentré.
C'est vrai, ça peut correspondre à un moment où on a besoin de cette solitude, etc. Tout est mis en œuvre pour permettre et la solitude...
Et les retrouvailles.
Ouais, c'est fou.
Mais avec Kwam Tawa...
Et ben, c'est des retrouvailles.
C'est des retrouvailles.
Dès la première rencontre. Et c'est ça qui est complètement incroyable, parce qu'après, C'est un ressenti, et après, il ne nous reste plus qu'à découvrir pourquoi.
Et après, quand vous l'avez lu, parce que vous l'avez lu, j'imagine, après l'avoir rencontré.
Ouais, ouais.
Donc,
ouais.
Auteur, dramaturge, metteur en scène, poète camerounais, vous l'avez lu après avoir rencontré l'homme. Est-ce qu'il y avait une coïncidence, quelque chose entre ce texte et la personne que vous aviez rencontrée ?
Mais j'ai cru qu'il l'avait écrit pour moi. Non, mais c'est fou. Non, mais quand j'ai vu que ça existait déjà, j'ai dit...
Mais pour vous, dans quel sens pour vous ?
Bah, je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce qu'il est publié, là, le bouquin ?
Bien sûr.
Ouais, voilà.
Il est apparu en 2023.
Et ben bah, voilà. Et ben bah, je me dis, mais c'est complètement incroyable, quoi. Parce que, bah, déjà, je l'ai lu d'une traite. Alors, malgré que ce soit une période à concentration...
Difficile.
Difficile, voilà.
Petite.
Ouais, mais là, la poésie peut rendre service. D'où le choix, peut-être, de ces textes qui peuvent se lire en fragmenté. Là, je suis pas. C'est pas une période romanesque, là, si vous préférez. Ouais, je m'en suis déjà fait. J'ai lu Crime et Châtiment de Dostoïevski. J'ai fait une pause de 9 mois pendant, avec les multi-personnages et tout. Je suis allé au bout quand même, par acquis de
conscience.
Mais
là, on est dans un moment où. Voilà,
c'est pas. Il y a pas la place. Quoi. Oui, oui. En fait, il y a pas la place parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de. C'est une grande arborescence. Ça fait jaillir beaucoup de choses. C'est une période, hein. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres périodes plus propices à des textes plus étendus, mais c'est surtout que là, quand on voit ce qui est concentré en peu de mots, et c'est là où j'aimerais en venir, et là je parle de la vie courante, c'est-à-dire commencer à rendre les choses un peu plus... enlever quelques rochers comme ça, que ça soit plus fluide, quoi, dans les mots, plus concis. J'ai fatigué trop de gens autour de moi.
Ah oui, parce que vous avez trop parlé ?
Physiquement, ouais. J'ai pompé trop d'énergie autour de moi. Donc,
vous allez moins parler, vous allez mettre moins de mots.
J'aimerais, ouais. Bah j'aimerais, bah, et puis ça doit faire partie du processus, je pense, de
plus ça va, moins on mettra de mots dans nos vies, vous pensez?
Ah, j'espère. Bah de toute façon, il y a bien un jour où on n'en mettra plus.
Plus du tout.
Il faut s'y ça, préparer.
C'est
certain. Il faut
en même
se préparer
temps,
à peupler ce silence.
C'est vrai. En même temps, vous dites, virus, combien les mots sont importants, combien ouais. Il faut les dire, combien le silence est aussi une violence. C'est-à-dire que vous avez aussi dans vos morceaux parlé des silences qui font mal.
Oui. Mais après, de passer du silence douloureux à cette espèce de cycle des quatre vérités, entre guillemets, par explosion.
On peut trouver un silence plus apaisé.
Quelque chose de plus, de moins nictéméral. Non, mais c'est vrai. Tout ça, ça correspond juste à, moi, je me dissocie pas de tout ça, en fait. C'est d'ailleurs, c'est un tout, et ça correspond complètement à ce que je vis là, en fait. Je me rappelle de cette phrase, la première fois qu'on avait eu affaire.
Oh, moi aussi, je me rappelle.
Ouais, je me rappelle, parce que c'est vous qui l'avez mis en exergue, entre guillemets, et qui en avait fait une phrase qui m'est revenue plusieurs fois.
Et moi aussi, on l'a dit alors ?
Ben, c'était « laissez-nous parler comme on vit » ou quelque chose comme ça. En gros, je crois.
On va vers William Burroughs ou on va vers Serge Tisseron et les secrets de famille ?
Serge Tisseron, on n'est pas trop. J'ai hésité après coup, je dis rien, trop tard, le mail est parti.
On peut toujours prendre toutes les libertés qu'on veut.
Oui,
est-ce que. Donc non, William Burroughs, pour l'instant.
Oui, mais parce que, en fait, celui-ci, le Serge Tisseron a une importance.
Ok. Donc on y viendra pour terminer.
Pourquoi pas ?
William Burroughs.
Alors,
il est là.
Doit être...
Qu'est-ce qu'on a ?
Ah, ça doit être le post-it horizontal. Non.
Dans Nova Express, il y a un je sais tout qui naît toutes les minutes, dit-il.
Ouais, c'est ça.
Fermeture, messieurs, la dactylo dictera vos dépositions.
Well, qu'est-ce que c'est que l'écriture ? Yes, I would certainly agree with that. One is the emphasis is on theory, and the other the emphasis is on practice, and really lack of interest in theory. As I've always said, the concepts, there's any number of ways.
Je suis tout à fait de votre avis là-dessus. D'une part, on souligne la théorie, de l'autre, on souligne la pratique. Et vraiment un manque d'intérêt à la théorie. Comme j'ai toujours dit au sujet des cut-ups, il y a mille façons de les faire. Vous pouvez faire un modèle et le mettre sur une page qui sélectionnerait certaines phrases d'une façon arbitraire. Il y a vraiment mille façons de le faire. Et j'ai rencontré des gens qui font des expériences de ce genre.
Et pourquoi ai-je essayé de faire exploser la planète ? Petit pois sous la cosse. Maintenant, vous voyez ? Maintenant, pas. Déplacement du ciel pour couvrir le dernier baratin. Avons tout pris avec nous et avons décampé. Je suis en métal et ce métal est radioactif. La radioactivité peut être absorbée jusqu'à un certain point, mais les aiguilles d'une montre tournent toujours. Le moment d'aller ailleurs. Seulement un tourniquet, planète lourde, voyager avec des techniciens de main rose qui peuvent faire marcher le standard et avec les vénusiens qui peuvent fabriquer de la chair et continuer dans le spectacle, puis la photo en flamme. Et nous continuons notre chemin. La parole est chair et la parole est deux, c'est-à-dire que le corps humain est un composé de deux organismes, et là où vous avez deux, vous avez la parole, et la parole est chair, et quand ils ont commencé à mêler de la parole, c'était la fin. Et le blocus était brisé, et la chaleur nova entra. Les Vénusiens chantèrent les premiers naturellement, ils étaient en danger. Ils vivent sous l'eau avec un tuyau d'air, et ce tuyau d'air est la parole. Puis, les techniciens ont dénoncé. Et qui peut les blâmer si nous considérons les conditions qu'on m'avait imposées pour garder ces techniciens ? Comme 3000 ans dans les griffes chaudes, donc je suis seul, comme d'habitude. Vous comprenez ? Nova est là, où je suis né. Dans une telle douleur, personne n'y échappe. Né maintes fois. À travers les galaxies blessées. Je suis seul, mais je ne suis pas ce que vous pourriez appeler un solitaire. La solitude est un produit extrait de deux structures mammifères. Solitude, amour, amitié et tout le reste. Je ne suis pas deux, je suis un. Mais pour maintenir mon état unité, j'ai besoin d'une dualité dans d'autres formes de vie.
Nova Express est paru en 1964, là vous l'avez lu dans la traduction en français par Marie Beach, et Claude Pellieux en 1970 pour les éditions Christian Bourgois. Texte de William Burroughs.
En tout cas.
Je vous laisse poursuivre.
Mais en tout cas, c'est des textes qui ont été construits d'une manière que je pratique depuis peu.
C'est quoi ?
C'est un dérivé un peu du cut-up, du collage, du pliage. C'est faire, c'est du sample. Ah, en gros, voilà. Et en fait, quand j'ai découvert ça, alors bien sûr, c'est fragmenté, c'est ça autorise tout, mais c'est surtout de l'écriture avec des écritures, comme dans le rap, on faisait de la musique avec des disques, quoi. On faisait des disques avec des disques, etc., etc. Je retrouve encore du rap là-dedans. Enfin, façon de parler, c'est presque devenu quelque chose de pictural. Et donc, moi, je me suis pris au jeu et j'adore. Et quand j'ai vu qu'il avait fait carrément des bouquins entiers, parce que moi, je fais des petits éclats comme ça. Ah, sauf que je me dis, mais attends, cet éclat plus cet éclat. Puis là, on rentre dans la mathématique, quoi. Et ce qui est fou, c'est que, en fait, il le dit dans le petit...
dans la préface ?
Oui, dans le petit texte, machin. Le chapitre intitulé « Ce cas horrible » fut écrit en collaboration avec monsieur Yann Somerville, un mathématicien. Voilà, je dis bingo encore. Il y a plusieurs auteurs qui font ça. Et moi, ça m'a vachement... La première fois que j'ai fait ça, c'était en atelier. J'ai proposé ça à des élèves.
Des ateliers d'écriture ?
Ouais, dans un collège en Suisse. Et c'était plutôt des élèves qui n'étaient pas du tout inscrits pour écrire. C'était un peu par défaut qu'ils étaient là, et pour la plupart. Et du coup, j'avais plutôt proposé un atelier coloriage.
Ça avait marché ?
Bah, ce qui était fou, c'est qu'après, c'est eux qui ont animé l'atelier à d'autres. Parce que c'est hyper simple, en fait. Et du coup, tu colories, hop, ou tu rayes. Si... Mais rayer, ça venait un peu... pas manquer de respect, mais quand même, il y a
quelques... Tu colories certains mots sur la page.
On va dire, tu colories en noir, quoi.
Il y a un texte que vous avez apporté avec vous, Virus, qui s'appelle « Les secrets de famille » de Serge Tisseron, paru aux Presses universitaires de France, qui nous fait de l'œil depuis tout à l'heure.
Ouais.
On y va ?
Collection Que sais-je.
Collection Que sais-je. Que vous aimez bien ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des collections que vous aimez bien.
Il y a des collections.
Que sais-je, vous aimez bien.
Ouais, Que sais-je, oui. Après, il y a beaucoup de... Comme il y a énormément de numéros, mais oui, j'ai mon petit rang de Que sais-je. Ça synthétise pas mal. Et celui-ci...
Donc c'est paru en 1999 sur Les secrets de famille.
Oui. Toutes les fois où un monument est construit, quelque chose risque d'être occulté. Non pas qu'à chaque fois il y ait quelque chose qui puisse intentionnellement être dissimulé, mais un monument invite chacun à renoncer à ce qu'il y a de plus profondément personnel dans son expérience pour privilégier ce qui est susceptible de renforcer ses liens au groupe. Le monument, par sa présence, rappelle à tous que le souvenir a une composante collective. C'est sa puissance positive de socialisation. Mais en même temps, il fait courir à chacun le risque de rejeter dans un ghetto mental les souvenirs les plus personnels. C'est sa puissance négative d'oubli. Pour autant, quand il n'y a pas de monument, il est encore plus difficile de se souvenir. Les hommes ont besoin de monuments pour vivre et pour se souvenir. Mais ceux-ci leur font toujours courir le risque de perdre leur mémoire. La solution est familiale. La solution est familiale. Pour éviter que le monument oppose une mémoire collective, intellectuelle et abstraite à une mémoire individuelle, concrète mais solitaire, la plaque qui se trouve sur les monuments ne devrait pas porter l'inscription « Souviens-toi ». Car cette phrase est plutôt une façon d'inviter chacun à passer sa mémoire individuelle au crible de la mémoire collective officielle. Il faudrait plutôt y inscrire « Oublie ce monument, cultive tes souvenirs, parle à tes proches. »
Vous avez choisi un texte qui se termine par « Parle à tes proches ».
Ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit deux fois « La solution est familiale » parce que je le pense vraiment et j'ai retrouvé. Parce que comment on fait pour choisir 5 extraits d'un livre quand... Marie Richeux, à France Culture, nous le propose. Comment on fait ? On commence par quoi ? Ce qu'on a au pied du lit, ça c'est la première idée qui devient l'idée finale. Mais il y a tellement de chemins, c'est-à-dire on se saisit de ça pour raconter quoi ? Et parle à tes proches, évidemment. Et là, par le prisme du monument collectif et tout, je trouvais que c'était hyper intéressant. D'autant que... Mais c'était pas pour cette raison-là que je l'ai sélectionné. Parce que je l'ai lu il y a longtemps. Et c'était plus... par rapport à la rencontre d'avec ce livre-là. Parce que celui-ci, par le biais du travail, là, hop, la rencontre. Et celui-là, en fait, je l'ai eu dans un Super U. On peut dire les marques ? Je sais pas, en tout cas.
Dans un supermarché.
Un supermarché, pardon. Mais vraiment, mais complètement, c'était pas ça mon programme. J'étais venu faire des petites emplettes, mais vraiment de... à manger, quoi. Et j'étais tombé là-dessus. Et je l'avais acheté. Et je dis, bon, ça paye pas de mine. Un petit... mais c'est l'accessibilité à des choses, mais tellement monstre, dans une gondole de supermarché en Normandie. Et pareil, c'est un livre dont je parle souvent. Parce que j'ai des souvenirs, en fait, du livre. Tout simplement. Il y a des scènes. J'ai des scènes dans ma tête. Où, par exemple, il parle à un moment, admettons, d'une image qu'on peut tous, ou pour beaucoup, visualiser. Un salon et une famille. Admettons. Admettons qu'il y ait une télé. Et là, dans la télévision, bah, en fait, y a des scènes qui se déroulent. Et dans le canapé, on va dire, il y a, admettons, deux parents et un enfant. Ça va vers quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la notion de, je crois que ça s'appelle la psychogénéalogie. C'est-à-dire ces choses qui traversent et qui parfois rebondissent par-dessus certaines générations pour ressurgir. Et il prenait l'exemple d'une scène, par exemple, de violence. Et il disait, dans le secret familial, par exemple, admettons que ce soit devenu un tabou, que par exemple la maman ou le papa ait vécu quelque chose. Il souligne le fait que l'énergie, l'onde que la personne va recevoir en visualisant la scène, héritage direct. Façon de parler, je résume brièvement, mais c'est-à-dire qu'en fait, parler, c'est mieux. Parce que de tous les cas, énergétiquement parlant...
Il y a quelque chose qui va passer.
Exactement. C'est-à-dire que ça peut être revivre la scène. Enfin, je veux dire, y a des films, des choses comme ça qui nous font des frissons, qui nous font pleurer, qui nous font... etc. Et du coup, j'ai retenu ça. Cette idée que bah, peut-être prenons des raccourcis en se parlant. Et puis voilà.
Merci beaucoup, Virus, d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club.
Bah, merci de me l'avoir proposé.
À la prise de son aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige. À la réalisation de cet épisode, Vivien Demeyer. Vous pouvez retrouver tous les textes choisis et partagés par Virus sur la page du Book Club franceculture.fr. Et c'est aussi à cette page que vous pouvez trouver tous les portraits, nos portraits de bibliothèque. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club, particulièrement aujourd'hui à Jeanne Aléos.